Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil.
Bonjour, je suis Gurvan Musset, bienvenue dans ce podcast. Comme d'habitude, nous allons embarquer, nous allons vous faire vivre des histoires extraordinaires sur toutes les mers du monde. Dans ce nouvel épisode, bienvenue à bord de l'un des voiliers les plus célèbres au monde. Des posters, des films, des affiches, des cartes postales, vous l'avez certainement déjà vu. Impossible de le rater et de ne pas être subjugué par la beauté de Moonbeam 4. Ce voilier d'une trentaine de mètres ne se visite pas. Monter à bord de ce centenaire écossais est donc un privilège. Et mieux encore, nous allons partir en mer d'Iroise. Le port d'attache de ce joyau, c'est Brest, à la pointe de la Bretagne. On va se faire discret, c'est l'heure du briefing, avant de larguer les amarres.
Ça roule, on a oublié ça ? Tout le monde a son poste ? C'est bon ? Donc on essaye de partir sur un côtier, on va faire un grand côtier, on va sortir du boulet, on va essayer de faire, suivant les angles du côtier, on fera des essais de trinquettes ou de génoises. Et puis on aura certainement un bord de ballonneur aussi pour finir, pour revenir. On peut faire une procédure de départ avec Pénoupel. Il n'y a pas besoin de semi-rigide pour faire la ligne, on va dire qu'on vise la couette Pénoupel pour sortir du boulet. Ok ? À tout de suite.
Notre guide, vous l'avez déjà entendu, c'est le patron, le skipper, Jacques Carraès. Il fut recordman de la traversée de l'Atlantique et recordman du Tour du Monde. Il a gagné de nombreuses courses prestigieuses. Ce Breton fut aussi le patron de la Route du Rhum, du Vendée Globe, de la Solitaire du Figaro, excusez du peu. Et donc aujourd'hui, ce champion, adepte de la vitesse et du carbone, on le retrouve sur un voilier en bois. Jacques Carraès, qu'est-ce qu'on fait ici face à ces bateaux qu'on n'est pas habitué à voir en rade de Brest ?
Bah ici, depuis quelques années, on a réussi à regrouper trois superbes bateaux qui ont plus de 100 ans, qui étaient des anciens bateaux de course, hein, qui étaient fabriqués par William Fife, qui était un Écossais, un petit peu en dessous de Glasgow, qui avait un chantier merveilleux à faire à Lee. Et il a construit effectivement tous ces bateaux de course en bois et ces bateaux de propriétaire, entre guillemets. Et on a la chance incroyable, depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, de les regrouper à Brest, alors que souvent on les voit plutôt soit sur la côte anglaise et souvent plutôt en Méditerranée. Et là on a formé le Team 5, c'est-à-dire 3 bateaux qui s'entraînent en même temps. Il y en aura peut-être d'autres un peu plus tard, mais en tout cas on a amorcé vraiment ces 3 bateaux-là sur la rade de Brest, qui est un plan d'eau merveilleux et qu'on partage aussi avec la baie de Douarnenez. Donc on a un site extraordinaire pour s'entraîner, naviguer et puis faire des compétitions, puisque le but de ces bateaux-là, c'est de les remettre en course comme ils étaient il y a 100 ans.
Et on va s'approcher un peu, je t'avoue que j'en meurs d'envie. Ce qui est clair avec ces bateaux-là, c'est que tout le monde les a déjà vus. Le monde entier les connaît, ces bateaux-là.
Oui, c'est des bateaux mythiques, c'est des bateaux qu'on voit souvent sur des posters, c'est des bateaux avec énormément de toiles, c'est des côtes auriques, donc ils sont très toilés, c'est des bateaux en bois, avec une structure en acier pour certains, ils ont plus de 100 ans, c'est vraiment des constructions incroyables qui ont eu la chance d'être restaurées par des propriétaires qui ont passionné par ces bateaux-là, qui les ont maintenus en état, parfois sortis de la vase, parce que pour certains, ils étaient condamnés, et ils ont été restaurés, et aujourd'hui, ils sont dans un état parfait pour renaviguer avec des équipages locaux ici sur Brest et la région. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir faire partager ça.
Allez, je vais oser poser la question, Jacques. Est-ce qu'on peut monter à bord ?
Oui, exceptionnellement sur Moonbeam 4, on peut monter.
Allez, hop, on embarque. On essaye de ne pas tomber dans le port de Brest. Quai du commandant Malbert, ça ferait petit joueur. Ah ouais, alors déjà, pour vous faire partager ce qu'on voit, ça n'est que propreté, vernis, tout est superbement rangé, c'est extraordinaire. J'ose à peine rentrer avec mes chaussures, Jacques. Hein.
Ça va, c'est pas en cuir, si c'était chaussures de sport, c'est parfait, c'est des chaussures planches en semelle, donc il n'y a aucun problème.
Allez, on rentre. Ah ouais, mais c'est énorme en fait. Jacques, on n'a pas donné les dimensions de ce bateau-là.
C'est un bateau qui fait 35 mètres de long hors tout. C'est des bateaux assez étroits malgré tout, mais c'est vraiment des bateaux magnifiques puisqu'ils sont, à l'époque pour la course, ils maintenaient un minimum d'aménagement. Et celui-là a été en plus refait l'année dernière à Concarneau. Celui-là était au Prince Rainier à une époque, mais il n'était pas tout à fait dans la même configuration. Il a été même motorisé avec 2 arbres d'hélice. Donc ce bateau Moonbeam 4, il a subi pas mal de transformations. Mais aujourd'hui, il est dans sa version d'origine. C'est ça qui est exceptionnel. Et c'est tenait très à cœur le propriétaire de le remettre dans sa version d'origine. Et aussi, les sachant de ces plans-là qui ont les les archives des plans Fife en Écosse.
Ce qui est extraordinaire, c'est que quelque part, alors je ne sais pas comment tu vas le prendre ça, mais on a presque l'impression d'être dans un bateau qui n'a pas bougé, qui est dans son jus, presque comme si on était au musée en fait.
Ben, c'est un peu ça, hein. C'est des bateaux qui sont d'abord hyper bien entretenus avec l'équipage et puis aussi avec les prestataires qui ont travaillé sur ce bateau-là pendant tout l'hiver dernier. Donc il y a un côté atmosphère qui est assez particulier, on est dans des meubles en acajou, avec on a encore les coupes qui ont été gagnées par le bateau dans le passé qui sont dans le carré principal. On sent une atmosphère très particulière, on a l'impression qu'on est reparti presque 100 ans en arrière.
Qu'est-ce que tu voudrais nous montrer, toi? Est-ce que tu as des préférences quand tu fais visiter ce bateau-là, quand tu as la chance de venir ici présenter ce bateau extraordinaire? Qu'est-ce que tu pourrais nous montrer qui, toi, t'a frappé au tout début?
Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est forcément le pont avec tous ces bouts, tous ces drisses en cordage toronné, toutes ces façons de naviguer sur le bateau. Donc, tout est à la main, il n'y a rien de mécanique, donc tout est au palan. Donc ça aussi, c'est une façon de naviguer qui est complètement différente d'aujourd'hui, hein, puisque on a très peu de winch sur ces bateaux. On en a même condamné pour revenir à l'ancienne.
Les winch, c'est ce qui va permettre de hisser les voiles assez facilement, enfin plus facilement.
Plus facilement, mais sur Mariquita, on a condamné les deux winch de pied de mât et repartait au palan des Tarques pour refaire exactement comme il faisait il y a 100 ans. Et c'est ça aussi l'histoire, c'est de réapprendre aussi à des navigants de la manière de comment on faisait naviguer ces bateaux-là autrefois. Donc c'est ça aussi le challenge, c'est renaviguer exactement comme à l'époque. Et finalement, on sent qu'il y a beaucoup de bon sens, il faut beaucoup de monde. C'est vrai que sur ces bateaux-là, il faut être entre 20 et 22 équipiers à bord, donc c'est beaucoup, mais c'est une harmonie à trouver, c'est des postes à bien définir. Et c'est ça aussi qui fait un petit peu mon challenge, c'est justement de trouver une belle cohésion avec tout ce monde qui vient parfois d'origines différentes. Il y a des gens qui viennent de la voile, on va dire de la voile moderne, si on veut, en quelque sorte, mais il y en a aussi qui viennent du bateau de travail en bois, comme le Galant, des bateaux qui traversent l'Atlantique en portant des marchandises. Donc on a un mélange de genres et qui fait que chacun apporte sa pièce à l'autre et du coup ça fusionne bien et c'est ça qui est la réalité des choses aujourd'hui ici sur Brest.
On continue la visite vers l'avant, là. Qu'est-ce qu'on a en fait?
Alors vers l'avant, on a passé le carré principal et ici tu arrives sur la cuisine. C'est une cuisine tout en longueur avec tout ce qu'il faut. Hein. C'est des frigos, des tiroirs qui sont avec des piloquets parce qu'on peut pas, à la gîte, forcément tout partirait à la gîte. Donc les verres sont coincés dans des petits tiroirs à loquets avec un emplacement pour chaque verre. Donc on sent qu'il y a quand même de la méthode et de la maîtrise. Hein. Tu vois, regarde, les petits tiroirs sont...
Ah ouais, tout est pensé, quoi.
Tout est en bois, tout est en acajou, et chaque tiroir a son petit loquet pour qu'à la gîte, tout ça reste en place. Et ici, on est dans le poste avant, c'est le poste équipage. Donc c'est là où les équipiers ont leur sac, c'est là aussi où ils ont leur douche, c'est là où aussi ils ont le sanitaire. Et ensuite, la partie arrière, c'est une partie qui est beaucoup plus réservée, effectivement, au propriétaire de l'époque. Aujourd'hui, notre propriétaire ne vient pas tout le temps, mais quand il vient dans son bateau, il a sa partie réservée forcément.
Et ça, on visite pas. Ça, c'est. De toute façon, le bateau se visite pas.
Le bateau ne se visite pas, non. Exceptionnellement, là, on le fait sur Moonbeam 4, mais c'est un petit peu pour eux aussi, un petit peu un endroit privé, un petit peu à eux, et qui veulent pas trop faire de visite parce que les bateaux sont assez délicats. Mais d'un autre côté, c'est la visite, elle se fait sur le pont, elle se fait sur le plan de voilure, elle se fait surtout quand on les voit naviguer. C'est des bateaux incroyablement de légende.
Juste une petite question. Quand tu casses quelque chose, et forcément sur les bateaux, on casse quelque chose, comment ça se passe? Comment on remplace? Est-ce qu'on essaye justement de mettre des matériaux plus légers? Ou alors c'est pas ça le souci?
Non, c'est vraiment pas ça le souci. Quand on casse quelque chose, on revient à une pièce d'origine. S'il faut la refaire complètement, si c'est une pièce de fonderie, il faut la refaire en fonderie. Non, non, au contraire, on bidouille pas. On essaye vraiment de garder le caractère authentique.
Et en vitesse, ça donne quoi?
Alors en vitesse, tu veux dire pour réparer ou en vitesse
sur l'eau.
Ben en vitesse sur l'eau, c'est des bateaux qui font des déplacements lourds. Hein. C'est des bateaux entre 65 tonnes et 75 tonnes armés entre Mariquita et Moonbeam 4. Donc c'est des bateaux lourds, c'est des bateaux d'inertie. Donc on les arrête pas facilement. Dès qu'ils prennent leur vitesse, on a l'impression d'avoir quelque chose dans les mains qui est incroyable. 70 tonnes dans les mains, c'est forcément pas les bateaux volants d'aujourd'hui, mais c'est une autre sensation. C'est de la puissance, c'est de l'inertie. Et quand on les voit passer, ça fait du bruit, ça vibre. C'est assez impressionnant.
Moonbeam. le rayon de lune. Pour Éric Tabarly, il est, je cite, « le plus beau yacht jamais construit ». Moonbeam 4 est lancé en 1914, non loin de Glasgow. Dans les années 20, il gagne de célèbres courses. En 50, il est racheté par le prince Rainier de Monaco pour son voyage de noces avec Grace Kelly. Mais son histoire n'est pas que champagne et beaux uniformes. Ce bateau, il transporte ensuite des marchandises avant de disparaître. En 95, il est retrouvé en Grèce, en piteux état. Et c'est en Birmanie qu'il est refait à neuf. Et aujourd'hui, vous êtes à bord, à Brest. Jacques, on est de retour sur le pont de ce voilier extraordinaire. On va donner quelques dimensions en termes de hauteur de mât, par exemple, parce que quand on lève le nez et qu'on regarde sous le ciel bleu, il y a du mât.
Oui, il y a de la hauteur, il y a de l'envergure. C'est des mâts qui font pratiquement 36 mètres. Et en plus, sur ces mâts-là, on rajoute ce qu'on appelle un grand flèche, c'est-à-dire encore deux morceaux de bois supplémentaires avec une toile à peu près de 30 mètres carrés, qui est le grand flèche. Et du coup, c'est une envergure proche de 37-38 mètres de haut quand même pour ces bateaux-là qui sont très puissants. Il faut forcément les manœuvrer avec beaucoup de cohésion, en faisant attention à la puissance du vent, parce que si on est trop toilé avec ces bateaux-là, on peut casser du bois, comme on dit.
Là, la longueur de ce bateau, c'est vrai qu'il est impressionnant. Mais moi, ce qui m'impressionne encore plus, c'est de penser que vous êtes à 22 à bord. C'est-à-dire que chacun a sa spécialité.
Complètement, 22 c'est rien de trop, surtout quand on navigue en compétition. Si on naviguait que pour une sortie d'essai, ça serait un peu moins. Mais quand on veut tirer parti du bateau, il faut vraiment être 22. C'est 22 postes bien définis. Tout est à la main, il n'y a pas de winch, tout est au palan, palan fin, palan courant. Il faut du monde, il faut de la force physique et il faut aussi de la bonne répartition, la bonne personne au bon endroit. Donc il y a de la méthode, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la cohésion d'équipage, la bonne personne à la bonne place. Et c'est ça qui fait la qualité de ces bateaux-là quand ils marchent vite.
Qu'est-ce que tu voudrais nous montrer, toi? De quoi tu es fier quand tu es à bord, quand tu regardes ce bateau? Tu te dis, purée, j'ai quand même la chance d'avoir ce bateau entre les mains, quoi.
C'est vrai que c'est impressionnant de pouvoir naviguer sur ces bateaux-là. Je crois qu'on a, chacun d'entre nous qui naviguons à bord, on a vraiment une fierté d'appartenance au projet, au bateau. On y fait attention, on fait attention aux moindres détails, dans l'entretien, dans... Le matin, la rosée, on essuie. Il y a des vernis. En montant à bord, on fait attention aux chaussures. En fait, c'est tout le temps en permanence. On est très délicat avec le bateau. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque chose a beaucoup de valeur. Quand on regarde les claire-voies, ils sont bien vernis. Quand on voit les cuivres qui sont bien
brillants. Ça brille, c'est incroyable, partout, ça brille partout.
Les anneaux de mât qui sont en bois recouverts de cuir sont graissés pour que ça monte bien. Les cordages sont toujours bien lovés. Quand on quitte le bateau, on essaie aussi un côté esthétique. On veut que le bateau soit beau, on est fier qu'il soit beau. Donc quand on désarme le bateau ou qu'on le quitte le soir, on remet tout à la bonne place, bien lové, les cordages bien lovés à la même longueur, qu'il y ait une symétrie d'un bord avec de l'autre. Et ce qui fait la qualité de la vue de ces bateaux-là. On a l'impression que c'est des objets incroyables. Ça prend du temps, mais ce n'est pas du temps perdu.
Quand on maîtrise les technologies les plus modernes, quand on a été patron de la Route du Rhum, patron du Vendée Globe, patron de la Solitaire du Figaro, j'ai envie de te dire, quand on connaît le carbone sur le bout des doigts, et qu'est-ce qu'on fait sur un bateau comme ça? Qu'est-ce que tu fais sur un bateau comme ça?
Je crois que c'est la passion. La passion, elle est sur tous les bateaux, surtout que ce soit petit ou grand, en PVC ou en carbone ou en bois. Moi, j'ai appris avec mon père sur les bateaux en bois à l'époque, quand j'étais tout petit. J'ai toujours eu cette passion du bois parce que c'est un matériau exceptionnel qui a de la flexion, qui a de l'énergie, qui a de la beauté aussi, suivant les essences de bois. Donc, les bateaux en bois ont quelque chose en plus, à mon avis. Donc, retourner sur ces bateaux-là, les faire naviguer, surtout en course, pour moi, c'est une opportunité incroyable que j'ai pu avoir avec les propriétaires, et surtout aussi de choisir les équipages, monter les équipages. Donc, finalement, c'est une vie de passionné, une vie de passion, et j'ai cette chance-là d'avoir pu passer à différents modèles, que ce soit monocoque, multicoque, et maintenant, retour à ces bateaux de plus de 100 ans.
Donc là, les bateaux vont sortir. Ton boulot, là, à toi, maintenant, c'est quoi avant de partir? Et j'imagine que lancer un bateau comme ça, le sortir, ouais, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple au début. C'est comme toutes les choses, il faut les apprivoiser. C'est des bateaux impressionnants au début. Plus on a une cohésion d'équipage et plus on sort. En fait, c'est pour ça qu'on cherche à sortir tous les jours, si possible. Parce que plus on est à la mer, plus on apprend. Et quand on apprend jour après jour, ben on est plus à l'aise, même déjà pour apponter avec un bateau comme ça, qui a une hélice qui est sur le côté. Parfois, il faut bien connaître son bateau parce qu'il réagit d'une façon différente. Donc, on apprivoise le bateau, en fait. Et c'est vrai qu'il faut de la méthode. Là, les gars, je vais les retrouver. Ils sont prêts. Les voiles sont gréées depuis une petite demi-heure. On va partir pour la journée, on va faire un grand côtier, on va chronométrer nos manœuvres, nos échanges de voiles en passant d'une petite trinquette à une grande trinquette, d'une génoise à une génoise. On va envoyer ce qu'on appelle le foc-ballon, qui aujourd'hui on appelle un spi. À l'époque ici c'était des foc-ballons avec des grands tangons qui font plus de 22 mètres de long qu'on va descendre. On voit ici le tangon qui est le long du mât. Celui-là, on monte quelqu'un dans la mâture. Il le décroche et il le kick, il donne un petit coup de pied sur le côté pour qu'il descende. Donc il y a beaucoup de gestuels et il y a beaucoup d'harmonie à trouver. Donc c'est ça qui fait aussi la qualité de ces bateaux-là, c'est l'harmonie de l'équipage qui va avec.
Une manœuvre pour changer de direction, dans un sens ou dans l'autre, ça prend combien de temps ?
Alors tout dépend la manœuvre et tout dépend les conditions météo, mais par exemple quand on fait un empannage, c'est-à-dire passer d'un bord sur l'autre au vent arrière, quand on est sous ballooner, donc sous spi si on parlait un peu plus en termes d'aujourd'hui, ça nous prend aujourd'hui, on fait quand le temps n'est pas trop dur et pas trop de houle, on le fait en 4 minutes 30, ce qui est pas mal parce que c'est affaler le ballooner, remonter le tangon le long du mât, empanner la grand voile, qui tout ça c'est à la main, redescendre le tangon, réenvoyer le ballooner. Donc c'est...
Ah non, mais je te rassure, moi je trouve ça miraculeux.
Alors c'est des termes un peu techniques, mais c'est vrai que quand on est sur l'eau et qu'on a la chance d'être sur l'eau à côté de ces bateaux-là, on en prend plein les yeux.
Allez, on y va. Nous avons passé le goulet de la rade de Brest. Ça y est, retour dans des eaux bien plus calmes. Nous arriverons bientôt dans les bassins du port de commerce. J'espère que cette virée à bord de l'un des plus beaux voiliers du monde vous a plu. Pas de mal de mer, ça va ? Allez, on débarque, on quitte, à regret, le pont de ce bateau hors du commun.
Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil.
À écouter et réécouter sur l'appli Radio France ou sur francebleu.fr.